fils d'un papa cheminot et d'une maman au foyer qui prône la solidarité comme valeur cardinale, Florio Toni grandit au Tessin. Comme beaucoup encore aujourd'hui, il quittera son canton natal pour étudier. En sortant du train dans la cité de Calvin, il rejoindra la lutte pour les droits de ceux du wagon d'à côté, les saisonniers et leurs enfants. Une lutte où le droit n'est plus une théorie, mais se pratique.
De ma carrière de militant, c'est quasiment la seule fois où on a fermé une association parce qu'on a gagné. Je veux dire, ça arrive quasiment jamais.
Elles ont façonné notre paysage militant roman.
Ils ont été activistes.
Des petites mains, des acteurs politiques régionaux.
Tous se sont battus pour un monde plus solidaire, inclusif, anticapitaliste, parfois il y a plusieurs décennies.
Et elles font partie des militantes d'une autre génération.
Notre vieille garde.
L'histoire de Florio débute dans un climat politique particulier qui agite l'Italie.
En gros, en plein 68-69, avec un regard sur l'Italie, un regard quand même sur une période assez violente. Nous, on n'était pas violents, je veux dire, mais il y avait quand même un peu cette période autour d'une violence en Italie avec les attentats.
Ce sont les années di Piombo chez les voisins du Sud. Si on se souvient de cette période pour les attentats qui la ponctuent, parfois organisés par la police elle-même, elle est aussi une période de bouillonnement politique et contestataire. De quoi inspirer dès l'école post-obligatoire, le jeune Florio a milité dans sa classe.
Donc arriver avec des thèmes comme on veut participer à l'élaboration des programmes, on veut un cours de sociologie sur telle hauteur plutôt que sur telle autre, même que tu aies vu après coup des revendications assez basiques, pas d'une importance extrême, ben ça a quand même formé un peu des mouvements, des collectifs, et puis un peu cette habitude à discuter, quoi. Et on lisait les journaux italiens, les journaux de l'extrême-gauche italienne. J'ai eu aussi une expérience avec deux, trois autres de ma classe, comme on pourrait la qualifier, un peu de chrétienne gauche. C'est-à-dire qu'on faisait partie d'une communauté, on n'était pas, disons, croyant au point d'aller à la messe tout le temps, tout ça, mais une église dans le quartier de Bellinzone nous avait mis en contact avec les communautés Emmaüs du nord de l'Italie. Et les communautés Emmaüs du nord de l'Italie, bon, disons, le but principal, c'était d'aller récolter des meubles, des marchés aux puces, et puis les revendre, et puis aider des gens dans la précarité, mais c'était des communautés Emmaüs très politisées. Et ces séjours qu'on faisait dans cette communauté de Vérone étaient en fait, c'était presque de la formation politique.
Ce que nous appelons la pauvreté, c'est, d'un point de vue chrétien, une situation d'infériorité humaine, une situation qu'on peut appeler plutôt injuste, qui est contraire à la volonté de vie de Dieu du royaume annoncée par Jésus.
Donc la formation politique, elle venait pas forcément que de l'influence des groupuscules italiens de l'extrême gauche. Elle a pu aussi venir de cette participation à cette communauté religieuse. On faisait des soirées, on lisait Camillo Torres, Che Guevara et tout ça, au lieu que de lire Pierre, Paul et les apôtres. Et elle venait de cette dynamique de ces deux dernières années de l'école de com, très... disons, on était très engagés, on allait au débat politique le soir, on allait un peu, poser des questions embarrassantes aux deux grandes partis socialistes et libéraux, qui étaient les deux grands partis, majoritaires. Je pense que ces deux années d'école de com, on a fait tellement de choses ensemble, tellement de discussions, on allait, après les cours, boire un café, puis on discutait. C'est un peu une espèce de bagage, de trésor, que, en delà du contenu propre des idées, des options, des hypothèses politiques qu'on pouvait faire, qui étaient quand même assez, disons, à la gauche du Parti Socialiste, voire même du Parti Socialiste Autonome. Mais il y avait aussi cette attitude qui a commencé à naître à cette époque et que je me porte comme trésor encore aujourd'hui, qu'on fait les choses collectivement.
Chargé de son trésor, comme beaucoup de ses compatriotes encore aujourd'hui, Florio doit s'exiler de son Tessin natal afin de faire des études. Il choisit Genève où, à la sortie du train, il commence à militer.
En fait, dans les étudiants du Tessin, on avait des contacts avec nos camarades des années précédentes qui étaient déjà partis à Genève. Et on avait un peu des contacts, on se parlait. Et en fait, ces amis ou amies qui étaient partis à Genève, au fond, ils aboutissaient dans deux groupes. Un était la Ligue marxiste révolutionnaire, et l'autre, c'était un peu les Mao, le CLP. C'était pas vraiment, disons, un choix stratégique. On n'avait pas lu les textes pour savoir de quel côté. Moi, j'avais coutume de dire, et je le dis encore aujourd'hui avec beaucoup de quelque part d'humilité, mais aussi en rigolant un peu dessus, en fait, ça dépendait de quel côté du train vous descendiez. Et moi, je suis descendu plutôt du côté sans liaison politique, et d'autres copains sont descendus du côté Ligue marxiste révolutionnaire. Donc, j'ai abouti à ce groupe qui faisait partie d'une galaxie plutôt d'extrême-gauche, marxiste-léniniste, dont j'ai jamais lu vraiment, j'ai jamais... Puis voilà, depuis cette intégration, ce qui m'avait un peu intéressé, que je liais peut-être à mon expérience tessinoise, c'était que dans ce groupuscule, il y avait des secteurs de travail qui m'intéressaient, qui m'avaient toujours intéressé, c'était tous les processus migratoires. Donc je me sentais un tout petit peu partie prenante, parce que voilà, j'avais quand même connu ce que ça voulait dire, arriver dans une ville où vous connaissez personne ou peu de monde. La langue, bon, le français, on la pratiquait, mais c'était quand même pas encore tout à fait évident les premières années. Donc voilà, et de là est née un peu ma militance dans ce secteur, au sens large de la migration. Dans la méthode de travail de ce groupuscule-là, je pense dans d'autres aussi, il y avait... Ce qu'on appelait, nous, un peu comme ça, pompeusement, le travail de masse. Et le travail de masse, il allait d'une cellule du groupuscule sur un thème à aller travailler dans les structures de terrain de ce thème. Pour nous, bon, plus on parlait la langue, c'était l'école libre italienne qui avait des sections de travail qui étaient un peu culturelles. On avait aussi des permanences un peu juridiques. Et puis, il y avait le travail, à cette époque, assez important autour de la question du statut de saisonnier.
Le statut de saisonnier a existé en Suisse de 1931 à 2002. Il prévoit que les travailleurs et travailleuses, venus des autres pays européens, peuvent demeurer sur le territoire pour 9 mois, une saison de travail, avant de devoir retourner dans leur pays pour minimum 3 mois. Ils arrivent massivement à la fin de l'hiver, généralement en train, subissent dès la descente du wagon des examens médicaux, avant d'être entassés dans des cabanes vétustes, sur les lieux de travail même.
Et donc, visite dans les baraques, organisation de fêtes, organisation de, par exemple, de l'arrivée, début mars, quand des saisonniers arrivaient d'Italie, derrière la gare Cornavin, il y avait le local de visite.
De ces 3 voitures descendent des saisonniers italiens qui reviennent, comme chaque année, travailler 9 mois durant dans notre pays. C'est véritablement le retour des hirondelles. Il en passe de 1000 à 5000 par jour à Brigue durant les mois de printemps.
On avait souvent instauré des permanences avec de l'information. Ben, les gens étaient quand même passablement formés, mais il y avait quand même chaque année... Dû aussi au fort taux de rotation des travailleurs immigrants, il y avait souvent des nouveaux, qui étaient informés par leurs collègues parce que c'était des immigrations village ou région par région. Mais on était là un peu pour les accueillir.
Attention, dans quelques minutes au pied 1, va entrer le train direct d'Italie. Ce train conduit en tête des voitures pour Genève, derrière les voitures pour Berne.
Il faut parfois jouer des coudes avec les autres organisations présentes sur place, notamment les syndicats qui rencontrent des difficultés à intégrer ces travailleurs espagnols et italiens déjà très politisés et ne voient pas d'un très bon œil la présence de permanence des ligues marxistes.
Pas des bisbilles, mais un peu une conflictualité avec les syndicats. Ces groupes d'extrême-gauche qui venaient se mêler de statut de saisonnier ou de droits des migrants, c'était pas toujours bien vu. Mais disons... L'arrivée à Genève, l'intérêt pour ce thème, la possibilité d'aller aux colonies libres italiennes, qui étaient quand même des organisations aussi très politisées, ça faisait un peu un continuum assez logique de mon parcours. C'était au fond, ils n'avaient pas forcément ils n'avaient pas ni demandé ni obtenu un statut de réfugié, Mais c'était un peu des gens qui avaient fui le fascisme, le franquisme. Donc quand même des gens politisés. Et cela, ça, je veux dire, nous, jeunes étudiants, arrivons entre 19 et 22, 23 ans, c'était au contact avec ces travailleurs ou aussi que les intellectuels. Ça continuait un peu notre formation politique aussi.
Si Fleuriot continue ainsi sa formation politique sur le terrain, il est aussi concrètement confronté aux conséquences inhumaines du statut de saisonnier.
Vous allez dans une baraque, vous voyez des gens qui... Alors évidemment, pour les côtés plus... qui faisaient un peu scandale ou qui faisaient un peu comme ça mauvaise impression, photos de femmes nues sur les parois et tout ça. Puis derrière tout ça, il y avait quand même des gens qui vous parlaient de leurs enfants, de leurs épouses, de leurs grands-parents. Donc il y avait quand même d'abord une première approche qui était très humaine, parce que je pense qu'au-delà de l'analyse politique, il y avait aussi ça. Un contact avec des personnes qui étaient quand même dans une situation extrêmement précaire sur le plan familial, culturel, social, isolé dans des baraques, avec un statut qui était extrêmement rigide du côté administratif. Je veux dire, c'est tous des gens qui devaient faire extrêmement attention dans ces années-là, perdre une semaine était catastrophique au point de vue accessibilité pour le permis B. Lequel permis B aurait permis dans un deuxième temps de faire venir la famille. Donc voilà, il y avait ce côté humain, puis il y avait ce côté administratif et politique, et puis voilà, c'était quand même l'illustration de ce que voulait dire déjà à cette époque la politique suisse en matière d'immigration.
Pour véritablement donner une solution humaine à ces difficiles problèmes.
Oui, évidemment, le drame de la Suisse, c'est qu'elle a demandé des bras, et puis ce sont des hommes, oui, qui sont arrivés.
On fait venir des gens pour travailler, on ne s'intéresse pas au côté humain, et puis c'est un côté très sélectif. Ce qui était le but de cette loi, hein, le but principal, c'était d'éviter des arrivées massives, quoi. De pouvoir garder un taux de présence des travailleurs immigrés, la surpopulation, c'était vraiment le thème... dans les années entre 70 et 80, il n'y avait pas encore l'Europe qui faisait pression. C'était quand même le thème central qui a quand même amené je me souviens un peu maintenant le détail, hein, mais à 4 ou 5 initiatives, dont les premières étaient l'initiative xénophobe de Schwarzenbach. Je pense que la première, la deuxième, c'était à quelques pourcentages près. Après, petit à petit... c'était des victoires, respectivement des défaites de la droite xénophobe plus importante. Mais les toutes premières étaient pas loin de réussir, hein. Moi, je me souviens que j'avais... c'est à ce moment-là que j'ai connu mon épouse et mes beaux-parents. Ils disaient, mais on préparait les valises. Les dimanches de votation, on préparait les valises.
Bien que les initiatives xénophobes voulant limiter la population étrangère lancées par le militant fasciste Schwarzenbach rencontrent de moins en moins de succès, l'urgence d'agir pour modifier la politique migratoire et l'attitude de la population vis-à-vis des travailleurs étrangers se fait sentir. Le centre de contact suisse immigré Genève est ainsi créé.
À l'origine de cette organisation, c'était l'idée de donner aussi concrètement une place aux associations d'immigrés dans la cité, parce qu'elles n'étaient pas forcément légalisées. Et puis, il y avait beaucoup de personnes à l'intérieur de ces associations qui étaient aussi elles-mêmes comme personnes non grata. Voilà, donc l'idée du centre de contact suisse immigré, c'est vraiment l'idée du contact. L'idée de ne pas, au fond, prôner que le travail de solidarité qui va pour les immigrés, mais de prôner un travail de solidarité et de combat pour l'égalité des droits menés ensemble, Suisse et immigrés. Avec aussi cette idée que, petit à petit, tout ce qu'on avait voulu essayer par la politique migratoire, qui était celle de que les gens s'installent jamais, petit à petit, les gens s'installaient. Donc, ils étaient plus seulement des émigrants, mais ils étaient aussi des travailleurs d'ici. et des travailleurs d'ici, il fallait pouvoir tenter petit à petit de traduire travailleurs avec des droits, travailleurs avec des droits les mêmes que les travailleurs suisses. Et petit à petit aussi, l'idée, c'est qu'ils étaient des citoyens de ce pays. Donc, l'idée aussi, les associations de migrants avaient aussi un peu adopté ce point de vue, quoi. Non, mais bon, l'idée qu'on avait, c'est que nous, on avait un peu l'impression que d'un certain côté, il y avait un peu voilà, ces mouvements un peu terre-mondistes, chrétiens de gauche, extrême gauche, qui, eux, se battaient pour des droits justes, et puis les partis, les syndicats qui étaient dans la paix du travail, et qui, au fond, leur dynamique n'amenait pas à des changements, disons, fondamentaux. Et d'autre part, il y avait le fait que ces travailleurs qui venaient notamment d'Espagne et d'Italie étaient des travailleurs très politisés. Et d'aboutir dans des syndicats, sans jugement moral de ma part, qui prenaient plutôt la concertation, qui aboutissait à la paix du travail et tout ça, déjà ces travailleurs-là n'étaient pas très bien vus. Il a fallu quelques syndicalistes un peu plus combatifs qui a fait qu'à un moment donné, ils n'ont pas été vus comme des semeurs de troubles dans les syndicats, mais comme quelqu'un qui amenait une expérience politique plus importante, peut-être plus politisée. Puis, je veux dire, la grande majorité de ces gens sortaient du Parti communiste. Ils avaient un bagage, une expérience, une volonté politique qui était probablement autre que celle que prenaient les syndicats suisses à ce moment-là.
L'objectif du centre est de modifier les mentalités et la loi petit à petit, étape après étape. Pas de grands projets révolutionnaires dans un contexte qui s'y prête très peu.
Parce qu'il faut quand même reconnaître que l'initiative Être solidaire, qui était une initiative du milieu des années 70 et que, comme je disais, prenait à la fois l'abolition du statut de saisonnier et d'autre côté une égalité de droit et d'intégration, elle s'est ramassée quand même 80%, 83% contre. C'était un peu mieux en Suisse romande, mais donc là, on a pris quand même ce qu'on appelle une grosse baffe. De là, peut-être aussi, pas d'abandonner l'idée que le statut de saisonnier était un statut inhumain, scandaleux, avec des procédures administratives qui empêchaient beaucoup les gens de respecter leurs droits. Mais donc, c'est vrai que là, sur le plan général, on n'abandonnait pas ces luttes-là, mais on a peut-être un peu plus commencé, mais ça je parle, c'est un souvenir, je ne sais plus vraiment le dater, à se battre sur des objectifs plus spécifiques. Un, c'était de se battre sur les procédures qui permettaient de passer de permis A à permis B.
Les conditions pour passer du permis A à B sont d'avoir fait au moins 4 saisons de travail en Suisse et d'avoir un logement adéquat pour sa famille.
Le statut de saisonnier vous plombait encore parce que vous vivez dans une baraque, beaucoup de fois. À part quelques patrons peut-être plus sensibles et encore, qui mettaient à disposition des bâtiments en dur. Mais vous avez rarement accès, en tant que saisonnier, même en fin de saison, à un logement qu'on appelait convenable, qui était une des bases pour obtenir le permis de regroupement pour votre épouse et vos enfants. Donc là aussi, il y a eu un certain nombre de luttes pour essayer d'assouplir ces critères-là. Pour l'obtention du regroupement familial, en assouplissant les règles de ce qui était considéré un logement convenable. Et puis, la troisième chose peut-être qui me vient à l'esprit, aussi sectorielle, on a commencé à ce moment-là à s'intéresser aussi beaucoup à l'école, aux enfants sans statut légal, parce que les chantiers fermaient à la louche, je ne sais pas, la troisième ou la quatrième semaine de janvier, mais ils ne fermaient pas jusqu'à mi-mars. Donc, les patrons étaient très contents d'avoir et les gens sur place, et les mêmes surtout. Parce que aussi, il faut pas négliger le fait que c'était tous des gens qui se formaient sur le tas, et que de les former, puis de les voir partir, et c'est un autre qui arrive, ce n'était pas vraiment un avantage économique pour le patron. De là est née la nécessité de commencer à s'occuper de la scolarisation des enfants, des saisonniers qui n'avaient pas encore le permis B ou qui n'avaient le permis B mais qui n'avaient pas encore réussi à obtenir le regroupement familial, et leurs enfants étaient là. Les fameux enfants du placard.
Les fameux enfants du placard. Oui, de nombreux enfants vivent à cette époque cachés, car leurs parents n'ont pas le droit de les faire venir en Suisse, même s'ils y travaillent.
Des informations invérifiables affirment que 5 à 6 000 enfants d'ouvriers étrangers vivent clandestinement en Suisse. Rien qu'à Genève, dit la rumeur, on en comptait environ 5 à 600.
Ben, pourquoi il y avait des enfants du placard ? Il y avait des enfants du placard, justement parce que le statut, en tant que tel, dans sa forme, disons, la plus stricte, empêchait le regroupement familial, ou il le retardait énormément, et vous veniez en tant que travailleur saisonnier, donc sans droit de faire venir la famille, pour 9 mois par année, sans pouvoir changer de canton, sans pouvoir changer d'employeur, parce que c'était un statut qui était directement lié à l'employeur. Il n'était pas un statut de la personne, il était lié à l'employeur. Pour toutes sortes de raisons, comme je disais tout à l'heure, économiques, les gens étaient là, les chantiers réouverts, les gens faisaient une moitié saison en plaine, une moitié saison à la montagne, dans les stations de ski, toutes sortes de raisons. Enfin, beaucoup de gens, objectivement, qu'ils le veuillent ou pas, qu'ils l'aient fait ouvertement ou clandestinement, restaient. Donc, c'était ceux qui restaient que les 3 mois ou ceux qui venaient déjà assez vite. Par exemple, il y avait beaucoup qui peut-être faisaient une saison, 2 saisons, et puis la 3e, 4e saison, ben, ils emmènent la famille. Donc là, il y avait quand même, disons, une masse conséquente de gens qui étaient hors légalité, si on appelle la légalité celle de la loi suisse sur la migration de 31, et qui constituait, disons, un problème social, une bombe à retardement énorme.
Bref, cela arrange tout le monde que les saisonniers ne respectent pas la loi. Mais leurs enfants doivent demeurer cachés dans les baraques et les logements de ceux-ci. Très vite, la question de la scolarité devient centrale et la lutte s'organise.
Alors, ça pouvait aller de la famille d'ex-enseignants solidaires, sensibles, à des enseignants qui les prenaient dans les classes, avec une approbation larvée de leur autorité. Et ça durait quelques années. Par exemple, à Genève, il y avait des gens qui accueillaient ces enfants, mais il y avait surtout, dans la couronne, après la frontière, un certain nombre d'écoles qui les accueillaient. À partir de là, pour le centre de contact, s'est posé la question de dire, indépendamment du statut et de la procédure qui amènera ou pas au statut, pas seulement du papa ou de la maman, mais du conjoint et des enfants, il faut qu'on puisse commencer à se battre pour ce qu'on a appelé le droit à l'éducation, qui était par ailleurs reconnu par la Convention européenne des droits de l'homme. On peut dire que probablement ces approches un peu partielles ont permis une meilleure vie concrète à des centaines, voire des milliers de familles, mais en même temps, chacune de ces luttes partielles sensibiliser un peu l'opinion publique, les autorités, les institutions, les partis, sur ce côté, disons, absolument inhumain et même économiquement pas très favorable du statut de saisonnier. Donc au fond, c'était un peu une lutte partielle, mais qui avait aussi un peu des objectifs de sensibilisation. Je veux dire, vous allez dans une école et puis vous parliez dans un conseil d'enseignants, de comment on pourrait accueillir quelques enfants du quartier, d'une certaine manière, vous sensibilisiez 10, 15, 20 enseignants, 1, 2, 3 directeurs, qui eux-mêmes parlaient à leur propre direction générale. Donc, c'était une méthode de lutte qui avait ses défauts, parce qu'on n'attaquait pas le sujet à la racine, mais qui avait ses avantages, parce que ça faisait avancer dignité, une vie familiale, la personnalité des enfants en jeu, enfin, je veux dire, sortir de ce énorme traumatisme qui était de vivre des semaines et des semaines chez soi, quoi, sans sortir. Sans...
Donc, même si ce n'est pas une révolution, mais parce qu'un pas en avant, ça reste un pas en avant, le centre contact Suisse immigrée Genève décide de prendre cette question d'une nouvelle manière.
Je pense qu'il y a, eu deux ou trois lignes de conduite fondamentales. La première, c'est celle de dire, au fond, un enfant a des droits en tant qu'enfant, indépendamment du statut de ses parents. C'est un droit à lui. Donc, séparer déjà ces deux choses. Le droit des parents, la situation juridique des parents, des droits de l'enfant. Au lieu de dire, on attend que l'enfant accumule le droit à aller à l'école par le permis B de son père, le regroupement familial, on prend le bout de dire, il a un droit à l'école, il a un droit à la scolarisation, il a un droit à apprendre, et on crée une école, qui est évidemment une école hors système. Donc l'idée, c'était de renverser cette logique, c'est de dire, on n'attend pas qu'il accumule des droits, il a des droits en tant que lui, et donc la petite école, si je le dis en quelques mots, c'était la pratique de son droit.
Tous les enfants ont le droit à l'école, c'est inscrit dans la loi. Et le centre crée une école où vont aussi les enfants des placards. L'État se retrouve à devoir choisir quelle loi appliquer, celle sur l'immigration ou celle sur le droit à l'école. Les fonctionnaires de l'enseignement règlent la question très vite.
C'est une démarche dynamique, parce que parallèlement à la création de cette école, il y a eu le département qui s'est mobilisé, des anciens enseignants qui sont mobilisés, les services médico-pédagogiques qui se sont mobilisés, les enfants pouvaient avoir des consultations s'il y avait problème, il y avait la cuisine scolaire, le parascolaire qui s'est mobilisé. Donc il y a eu aussi une dynamique qui a fait que, parce qu'au fond le but de créer cette école, c'est qu'elle n'existe pas. Je veux dire, on crée une école pour pratiquer un droit, pour aboutir que le droit il se pratique dans l'école publique. De ma carrière, enfin si je peux parler de carrière, de militant, c'est quasiment la seule fois où on a fermé une association parce qu'on a gagné. Je veux dire, ça arrive quasiment jamais. Mais là, on l'a fermé parce qu'au fond, le but du droit à l'éducation était acquis. Mais il était aussi acquis parce qu'il y avait la pratique du droit inaliénable de l'enfant, mais il y avait aussi tout ce qui était allé avec comme dynamique. Je veux dire, quand un conseiller d'État prend une fillette turque sans statut et il va l'amener à l'école, c'est un gros message. Ça veut dire que l'école en tant qu'institution a commencé à prendre en charge le problème.
C'est précisément la situation dans laquelle nous nous sommes mis, nous, les Suisses, de par cet appel à la main-d'œuvre étrangère, et d'être arrivés à un point où nous ne pouvons pas assurer à ces travailleurs étrangers qui viennent construire nos maisons, construire nos hôpitaux, de leur assurer une vie de famille qui soit normale.
Donc, nous, on l'attribue aussi à une bonne volonté des autorités scolaires de Genève, mais aussi le fait que cette pratique concrète du droit à la scolarisation a amené aussi beaucoup de conscientisation de tous les acteurs de l'éducation. Donc, une chose, c'est prôner, et il fallait le faire par des pétitions, par des manifs, un droit à l'éducation. Une fois, c'était de dire, maintenant, ce droit à l'éducation, on le pratique concrètement. Et cette pratique concrète a amené toute l'institution scolaire à se questionner.
Mais Florio sait que cela pouvait aussi mal tourner. Que se serait-il passé si on avait appliqué l'autre loi en priorité ?
Ah ben ouais, il y avait une partie de risque, hein, c'est sûr. C'est pas parce que les enfants étaient d'une part à la petite école pour certains et déjà petit à petit admis à l'école publique d'autre part. C'est pas pour ça que la politique suisse en matière d'immigration changeait de cap. Donc, si un parent était dénoncé pour toutes sortes de raisons, par des voisins, par son patron, par jalousie, il risquait l'expulsion. Donc, c'est vrai qu'il y avait une partie de risque. Moi, je me souviens que dans certains débats, on nous l'avait un peu, reproché, un peu du style. Vous risquez de provoquer des expulsions. Oui, ça c'est un risque qui n'était pas négligeable et qui n'était pas sous-évalué. Mais voilà, je veux dire, dans les luttes, il faut pas utiliser les gens pour des luttes. Mais il y a pas de lutte sans risque non plus, je pense pas.
Et cette lutte a payé. Aujourd'hui encore, le droit à l'éducation de l'enfant est prioritaire. Florio porte un regard plein de nuances sur son combat et insiste sur l'aspect collectif de la lutte.
Comme je disais tout au début, faire les choses avec les gens et pas pour, faire les choses ensemble et pas séparément, faire les choses collectivement. Donc franchement, Peut-être, si je regarde chaque étape, je pourrais imaginer que voilà, là, j'aurais pu prendre un autre virage. Mais si je pense à la ligne générale, à la ligne de conduite générale, je pense que non. Je pense que j'ai fait ce qui m'a semblé juste de faire et il n'y a rien qui me paraît être, disons, entre guillemets, à faire autrement. Mais comme je dis, probablement, si je prends initiative par initiative, je ne sais pas, il y aurait peut-être eu d'autres chemins. Mais ça, c'est, je ne trouve pas que c'est important. Là. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une espèce de ligne générale qui était la base de mes engagements. Juste ou faux, ça, je ne sais pas. Peut-être on pourra me critiquer quand j'aurai fini un certain nombre de choses et je serai tout à fait prêt à entendre. Mais j'ai l'impression que entre la chance et ma volonté, ben, j'ai fait ce qui me semblait juste de faire, honnêtement, humblement, et j'en suis fier quand même. Je peux le dire que je suis fier de mon parcours, sans gonflerie aucune. Je suis fier de ce que j'ai fait.
Fier de ce qu'il a fait, mais conscient que chaque acquis est fragile, aujourd'hui il rejoint une nouvelle génération dans leurs manifestations et les encourage à résister, car ce n'est pas que nécessaire. C'est aussi une richesse, un trésor que l'on prend avec soi.
C'est que dans la résistance, il n'y a pas que des aspects tristes et de lutte et de responsabilité. Il y a aussi beaucoup de joie, il y a beaucoup de plaisir, il y a beaucoup de belles rencontres, il y a beaucoup de... Je veux dire, quand... J'ai l'impression que quand je participe, malgré la situation tragique à Gaza, il y avait un côté hyper joyeux dans ces manifs. Il y a eu des moments très, très joyeux quand je participe en tant qu'homme aux manifs des fois du 14 juin. Il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de solidarité, donc il y a beaucoup d'envie de... Et ça, je trouve, c'est quand même quelque chose que je porte comme un bagage aussi. Je disais le bagage collectif, mais le bagage collectif, il a aussi son lot de moments compliqués, de discussions, de ruptures, de séparations. Mais il y a aussi un moment de joie, de faire les choses ensemble, de vivre des luttes ensemble, de vivre des conquêtes ensemble, de voir qu'il y a des gens qui améliorent leurs conditions de vie, qui vous sont reconnaissants. Et puis on le fait, je ne dirais pas ça, toujours cette idée que de toute manière, on le fait aussi pour soi. Et moi, je trouve que dans le résister, il y a tout ça. Il y a aussi cette joie collective, cet enthousiasme. Alors évidemment que peut-être les temps qui courent, c'est moins évident à le trouver, mais à quelque part, il y est. Donc si j'ai un message, je dis, voilà, il faut résister. Il faut résister, aller de l'avant, avec joie et confiance.
La vieille garde.
Un machin audio.
De François Clément.
Estelle Pelletier.
Et toute l'équipe technique et subsistance.